Nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenantes, trois de nos consoeurs. Patricia Hennel, médecin de santé publique, présidente du PACA Ouest Corse. Hélène Laroche, médecin du centre d'hémato-immunologie clinique de la PHM. Elle se présentera mieux tout à l'heure, elle a ajouté quelque chose. Julia Muriani, présidente du collège de gynécologie médicale Marseille-Provence. Posez vos questions au fil des exposés, elles seront traitées à la fin comme d'habitude. Le prochain jeudi, c'est le 27, dans une semaine. Il nous tient tous à cœur, particulièrement à notre ami Guillaume Gorincourt, qui donne tout son talent et toute son énergie pour lutter contre la souffrance des étudiants en santé, des internes et des jeunes médecins. Interviendront, je le dis en vrac, on verra le détail après, Anne Degray, Nicolas Lunel, Aloi Rayac, Laurence Marbach, Rachel Brochet et Valérie Oslender. Suivra une table ronde avec François Crémieux, Jean-Luc Jouve et un représentant du syndicat des internes de la PHM. Merci à notre présidente, merci à tous les membres de notre conseil, merci à toute notre belle équipe de la communication. Chers consoeurs, vous avez la parole. Je crois que c'est Patricia Hennel qui débute. Merci.
Alors bonsoir à toutes et à tous et merci au Conseil de l'Ordre de nous permettre de parler ce soir de la lutte contre le VIH parce qu'il y a encore beaucoup de besoins et que la médecine de ville a une grande part à jouer comme vous allez le voir. Donc je vais faire quelques petites introductions et puis je laisserai la parole à mes consoeurs pour développer qu'est-ce que c'est que la PrEP VIH et puis où en est-on sur les IST. Alors, je vais commencer par vous parler du Corévi et de ses missions. Donc, peut-être que vous n'avez pas entendu parler des Corévi. Alors, les Corévi, ce sont les comités de coordination régionale de lutte contre le VIH initialement, étendus ensuite aux hépatites virales et aux IST, aux infections sexuellement transmissibles, en fait, à des pathologies qui partagent tout ou partie des modes de transmission, des techniques de dépistage et des facteurs de risque. Et puis quand même, pour être un peu plus positif, s'orienter vers aussi une approche en santé sexuelle, en veillant à maintenir une bonne santé sexuelle. Donc c'est une instance régionale qui est aussi un centre de ressources pour vous tous. Alors, quelles sont rapidement les missions de ces Corévi, mais d'une autre, le Corévi PACA Ouest Corse? C'est de coordonner tous les acteurs possibles qui sont concernés de près comme de loin par ces différentes luttes. C'est d'améliorer le parcours des personnes, que ce soit depuis l'information, la mise à disposition d'outils de prévention, des possibilités de dépistage jusqu'à l'accompagnement vers le soin et l'accompagnement, qu'il soit aussi psychologique ou social. Nous sommes également une instance chargée de recueillir des informations épidémiologiques, de les partager et de les faire remonter à des instances nationales comme Santé publique France, on le verra ensuite. Nous sommes également là pour élaborer des plans d'action avec les acteurs de terrain, prioriser ce qu'il y a à faire de plus pertinent dans notre région, donc par territoire. Ça peut être différent sur Marseille, des Alpes, par exemple. Et puis, nous rapportons aussi ce qui se passe et nous essayons aussi de participer au plaidoyer pour faire avancer les causes. Alors, du coup, pour faire tout ça, nous avons un large comité pluridisciplinaire qui réunit tous les acteurs concernés dans un cadre et un esprit de démocratie en santé. On est un petit peu la seule structure avec cette mission de démocratie en santé et on est un organisme indépendant qui porte la parole de ces acteurs et qui porte la parole des personnes concernées. Alors, ce comité réunit des acteurs de l'hôpital, bien sûr, hein, tous les services hospitaliers qui s'occupent de la lutte contre le VIH, des hépatites virales, mais aussi la ville. Hein, donc, on a un collège composé de représentants des soignants et du secteur médico-social de ville. Et puis, surtout, on a des associations représentant des usagers et c'est une partie très importante dans l'éco-révie. Et notre Bible actuellement, c'est la stratégie nationale de santé sexuelle pour la période 2017-2030 qui vise à maintenir et à proposer une bonne santé sexuelle à tous. Et cette stratégie est déclinée en feuilles de route avec des objectifs, des actions prioritaires. Et là vient de paraître la feuille de route numéro 2 que nous allons déployer dans la région. Alors, je vais vous faire un petit point sur les chiffres clés de l'infection à VIH en France, de façon assez synthétique, parce qu'il y a énormément de données sur cette infection. Il y en avait surtout énormément avant la période de Covid. Et pour la France, en 2020, on a des chiffres sur le nombre de tests de dépistage VIH réalisés en France. Il y en a plus de 5 millions. On a toujours été un pays très concerné par le dépistage et un pays où on dépiste beaucoup. Avec ces 5,2 millions de tests de dépistage, on a découvert environ 4800 découvertes de séropositivité au VIH. Et parmi ces 4800 personnes qui ont découvert leur séropositivité au VIH, il y en avait une part, en fait, qui découvrait leur infection à un stade avancé. Il y en a 30% qui arrivent tardivement au dépistage. Donc ça, ce sont les données remontées en 2020. Si on regarde l'évolution 2019-2020, on voit qu'on a une baisse assez importante du nombre estimé de personnes ayant découvert leur séropositivité, moins 22%, donc ce qui pourrait être encourageant. Mais on s'aperçoit également qu'on a moins de dépistage qu'auparavant. On en a moins 14%. Les années d'avant, on avait plus de 6 millions de tests de dépistage. Et puis aussi, on voit qu'il y a une augmentation de la part des personnes qui arrivent tardivement au dépistage. Donc, on voit qu'il y a une baisse des découvertes, mais en même temps, on a des signaux d'alerte sur les baisses des dépistages et les dépistages en retard. Si on regarde sur une courbe, donc sur ces dernières années, l'évolution de l'épidémie à VIH en France entre 2012 et 2020, on voit globalement trois parties. Une partie de stabilisation de la courbe épidémique, une partie un peu plus récente entre 2016 et 2019 de fluctuation, où on avait du mal à dire est-ce que ça baisse, est-ce que ça ne baisse pas, et puis cette baisse plus récente qu'on vient de voir. Alors, on sait globalement ce qui a influencé l'évolution de l'épidémie, donc sans faire état de tous les facteurs qui ont amené à cette courbe à la baisse. Sur la période de stabilisation, on sait que c'est très clairement dû à l'efficacité individuelle et collective des traitements antirétroviraux et à l'amélioration du dépistage, tant dans la diffusion de recommandations nationales et leur application, que dans la multiplicité d'outils de dépistage, comme par exemple les tests rapides d'orientation diagnostique. Si on regarde du coup cette partie un peu plus récente de baisse des découvertes, on aimerait pouvoir confirmer que c'est une réelle amélioration. Et là, on sait les facteurs d'amélioration de la baisse et de la chute réelle de l'épidémie. Si on regarde les modèles anglo-saxons, ce qui se passe à San Francisco, en Angleterre ou en Australie, la chute de la courbe épidémique, elle est clairement liée à l'efficacité de la PrEP, mais c'est Hélène Laroche qui vous en parlera, et la diffusion et l'utilisation de ces outils, PrEP et outils de prévention combinés. Donc on sait que c'est possible, mais c'est vrai que la baisse actuelle, elle n'est pas assez importante par rapport à l'efficacité de ces outils et leur diffusion. Et puis aussi, il y a un contrepoids, il y a l'impact de la crise liée au Covid. Et malheureusement, on a eu sur l'année 2019 une absence de remontée des données, de traitement des données par Santé publique France, qui passait à peu près tout son temps à s'occuper des données Covid, bien sûr. On a eu également sur ces dernières années, toujours liées à la crise, une moins bonne qualité des données, donc une diminution de l'exhaustivité des données et aussi une diminution de leur qualité. Et puis on sait aussi qu'il y a eu un moindre accès au dépistage. Par exemple, les personnes pensaient ne pas pouvoir aller dans des structures de dépistage, pensaient que, comme à l'hôpital, des consultations étaient annulées, il fallait montrer un pass pour accéder à ces centres de dépistage. Et on n'a pas assez communiqué sur la possibilité d'y aller sans montrer patte blanche, si on peut dire. Alors, si on se rapproche de notre région, la région PACA, nous avons un peu les mêmes chiffres clés. En région PACA, on réalise aussi beaucoup de dépistages. On réalisait en 2020 91 tests de dépistage VIH pour 1000 habitants. On est au-dessus de la moyenne nationale. On a toujours eu des acteurs très engagés dans la lutte contre le VIH en région PACA, du fait d'une épidémie historiquement importante. Avec l'ensemble de ces tests de dépistage, on estime qu'il y a eu 155 découvertes de séropositivité dans la région en 2020. Il y a quelques années encore, on était autour de 450. Et puis, on sait aussi qu'on a une part des personnes qui viennent de découvrir leur séropositivité qui est assez importante, avec un retard au diagnostic. Et on a plus d'un quart des personnes qui arrivent tardivement, c'est-à-dire avec soit des signes cliniques, soit un système immunitaire déjà atteint. Donc on a aussi, comme en France, une baisse des dépistages, moins 18%, ce qui veut dire aussi baisse des dépistages, mais aussi des diagnostics d'infection à VIH manqués. On a une baisse des découvertes de séropositivité de moins 21%. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est entièrement lié à une baisse réelle de l'épidémie? C'est encore difficile à dire. Et puis, on a ces dépistages trop tardifs et qui sont à la hausse, alors qu'on était dans une région avec la plus basse part de tests de dépistage tardifs. Et donc, tout ça, ça a un impact très important sur la lutte contre l'épidémie et la poursuite de l'épidémie. Parce que très clairement, c'est une perte de chance individuelle dans l'accès rapide à des antirétroviraux qui sont efficaces. C'est aussi une perte de chance individuelle dans l'accès à la PrEP, l'accès au dépistage et aux outils de prévention. Et du coup, c'est un risque collectif de transmission du VIH avant la mise sous traitement. Mais Hélène, je crois que tu en parleras, puisqu'on sait maintenant que les antirétroviraux ont des bénéfices individuels pour améliorer l'espérance de vie des personnes, mais aussi présentent un bénéfice collectif puisqu'ils arrêtent la transmission du virus dans certaines conditions. Et donc voilà, cette introduction, c'était vraiment pour vous dire que nous toutes, tous, on peut contribuer à mieux prévenir, à mieux dépister, à mieux traiter pour en finir avec l'épidémie du VIH. Et je vous ai mis ces deux photos pour vous rappeler qu'actuellement, il y a une grande exposition sur le VIH-SIDA au MUCEM qui a été organisée avec les acteurs de la région parisienne et de la région PACA. C'est une très belle exposition donc, qui fait l'historique de l'épidémie à VIH et qui rappelle les enjeux actuels dans la région PACA et pourquoi l'épidémie n'est pas finie. Donc je vous encourage à aller la voir et vous verrez que c'est une exposition qui est très centrée sur comment en finir avec les discriminations, avec les stigmatisations, comment lutter contre les inégalités sociales de santé qui sont le lit de beaucoup d'épidémies, que ce soit pour le VIH comme pour le Covid. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vais passer la parole à Hélène qui va enfin vous dire ce que c'est que la PrEP VIH.
Bonsoir à tous. Donc moi, je suis le docteur Hélène Laroche. Merci beaucoup de m'avoir invitée donc à vous présenter ce qu'était la PrEP. Donc je suis donc médecin à l'hôpital à Marseille et également donc vacataire dans un centre de dépistage anonyme et gratuit qui a été ouvert par l'association AIDS à Marseille. Donc la PrEP, la prophylaxie pré-exposition du VIH, c'est un traitement médicamenteux en comprimé qui regroupe donc deux antirétroviraux, le tenofovir disoproxil et l'emtricitabine, qui sont deux molécules qu'on utilise depuis maintenant 15 ans pour traiter la pathologie VIH. Ce médicament est indiqué pour des personnes qui sont à risque d'exposition au VIH et permet de protéger du risque de transmission en assurant une concentration efficace au niveau des muqueuses exposées au VIH. Cette prophylaxie est très efficace, de l'ordre de 94% d'efficacité, sachant que sur des études, on voit que les échecs sont liés à l'inobservance, on en parlera après. C'est une très très grande efficacité quand on voit par exemple que l'utilisation du préservatif chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes n'a une efficacité que de l'ordre de 67%. Donc la PrEP, c'est arrivé en France en 2016, initialement en restriction temporaire d'utilisation, où elle était indiquée qu'à des personnes à très haut risque. Elle a rapidement obtenu donc l'AMM, et la même année, il y a eu le générique donc du Truvada qui est paru, ce qui a permis de baisser le coût rapporté à la PrEP. 2018, l'extension des critères d'indication. Et enfin, tant attendu, en juin 2021, les recommandations de la HAS qui permettaient donc la primo-prescription de la PrEP en ville et donc qui permettaient de sortir d'un usage uniquement très spécialisé à l'hôpital ou en Cégide. Il faut savoir que donc la PrEP a fait la preuve d'un rapport coût-efficacité par de nombreuses études, par le nombre d'infections au VIH qui étaient évitées. La France a fait le choix, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, de rembourser, de prendre en charge à 100% cette prophylaxie. Donc les chiffres vous ont été largement présentés par Patricia, je reviendrai rapidement là-dessus. Moi, je me suis intéressée surtout aux chiffres avant le Covid, parce que c'est vrai que c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se passe réellement depuis le Covid. En pratique, donc, le nombre de nouvelles contaminations au VIH en France depuis une dizaine d'années, c'est autour de 6000 nouveaux cas par an. Pour la première fois en 2018, on a vu une baisse de 7%, ce qui était très encourageant, mais largement insuffisant quand on voit effectivement qu'à San Francisco, depuis l'arrivée de la PrEP, il y a une baisse de 50% des nouvelles contaminations, ou encore en Angleterre, une baisse de 20% depuis l'arrivée de la PrEP. Il faut savoir aussi que cette baisse des nouvelles contaminations, elle concerne quasiment exclusivement les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes nés en France, alors que l'épidémie du VIH concerne encore plus de la moitié des personnes hétérosexuelles, dont pour la totalité des nouvelles contaminations, 35% de femmes. Et effectivement, quand on regarde les chiffres d'utilisation de la PrEP en France en 2019, avant le Covid, on voit que c'est quasiment exclusivement des hommes d'un âge moyen de 37 ans, résidant en Île-de-France pour 45% d'entre eux, et seulement 7% sont bénéficiaires de la CMU complémentaire. Donc en pratique, la PrEP, c'est un outil qui est très intéressant, mais on le voit qui est largement... qui n'est vraiment pas assez utilisé et qui mériterait largement d'être développé sur tout le territoire et à d'autres publics. Donc les recommandations HAS juin 2021 replacent déjà les critères d'indication en étendant la PrEP à toute personne, en explicitant que toute personne peut être candidat à la PrEP à un moment de sa vie selon son contexte de vie sexuelle. Quand on décide de mettre quelqu'un sous PrEP, c'est donc une approche individualisée qui doit être faite en tenant compte des rapports présents mais également passés et futurs. Les recommandations insistent aussi sur le fait que toute demande de PrEP doit être entendue, même si les risques d'exposition ne semblent pas majeurs, et qu'une demande de PrEP pour améliorer la qualité de vie sexuelle doit également être entendue. C'est une décision partagée entre le patient et le médecin. Ces recommandations rappellent les critères donc à haut risque d'acquisition du VIH, en précisant bien, donc encore une fois, qu'il ne s'agit pas des critères de sélection de mise sous PrEP, mais que c'est plutôt des outils qui servent à guider la discussion avec le patient. Dans ces critères, donc, je vous les cite rapidement, il y a bien sûr donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les personnes transgenres, les personnes hétérosexuelles, que ce soit elles ou leurs partenaires concernés par des risques d'exposition, c'est-à-dire originaires d'un pays à forte endémie, pratiquant le multipartenariat, des personnes exposées à des pratiques à risque n'utilisant pas le préservatif ou ayant des marqueurs d'exposition comme des IVG, des IST, des prises de traitement post-exposition, des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes infectées par le VIH qui ne seraient pas indétectables ou de charge virale inconnue, des femmes enceintes exposées à des violences ou vulnérables, ayant des facteurs de vulnérabilité, des personnes usagées de drogue avec et sans jeu de seringue. Voilà, on peut rentrer précisément dans les détails. Donc, en pratique, comment ça se passe la PrEP ? Donc, comment elle se prend ? Il y a deux schémas de prise possibles. Le schéma classique, une prise de 1 comprimé par jour qui confère une protection dès le 7e jour de prise, donc un peu comme une pilule contraceptive. Ce schéma-là, il est possible donc chez tous les publics Et il est recommandé, en cas d'arrêt, donc, de respecter un délai de 7 jours après le dernier rapport à risque. Deuxième schéma possible, le schéma discontinu ou à la demande, qui a été un schéma validé par une grande étude française menée par le professeur Molina, l'étude Hyper-Gay, qui consiste à protéger les rapports ponctuels, donc par une prise ponctuelle de traitement. Donc ce serait la prise de 2 comprimés avant le rapport, entre 2h et 24 heures avant le rapport, puis on poursuit 24 heures après, au moins 2 jours après le dernier rapport. Donc pour vous donner un exemple concret, quelqu'un qui aurait des rapports sexuels, par exemple, le week-end, il démarre sa sexualité donc le vendredi soir, il prend ses cachets, ses 2 comprimés 2 heures avant, il démarre son activité, il continue le samedi un comprimé, dimanche un comprimé, il arrête son activité sexuelle, il poursuit le traitement au moins 2 jours, donc lundi, mardi. Ce schéma-là, il est très intéressant pour certaines pratiques, mais il n'est pas recommandé chez tout le monde. C'est uniquement chez l'homme cisgenre, c'est-à-dire né biologiquement homme, et chez les personnes qui sont immunisées contre l'hépatite B, parce qu'il y a un risque de réactivation du virus de l'hépatite B si on n'est pas protégé en utilisant ce traitement. L'arrêt du traitement peut se faire donc au moins 2 jours après le dernier rapport à risque. La PrEP peut être prescrite dès la première consultation si la personne se présente avec des résultats biologiques récents vérifiant l'absence de contre-indications à la PrEP, qui sont une infection VIH ou une insuffisance rénale. Le premier bilan doit donc comprendre une sérologie VIH faite dans des délais corrects pour éliminer une infection, donc 6 semaines après une dernière exposition à risque, une créatinine avec une clairance et une sérologie d'hépatite B pour décider du mode de prise. Il est impératif donc de bien éliminer une primo-infection au moment de la prescription, donc soit en vérifiant l'absence de signes cliniques qui sont tout simplement un syndrome pseudo-grippal, ce qui est très rare de nos jours. Et s'il y a un doute sur une éventuelle exposition à risque récente, on doit prescrire une charge virale qui permet de détecter la présence du virus dès 7-10 jours après le rapport. Donc après la PrEP, elle se prend à heure fixe, plus ou moins 2 heures, avec une collation, c'est conseillé. Les principaux effets indésirables qui ne posent pas particulièrement de problème, et c'est donc nausées, céphalées, vertiges, troubles digestifs, diarrhée, qui sont des effets indésirables qui sont rares et passent rapidement, généralement, après l'initiation du traitement. Les effets indésirables plus graves, mais très rares, sont l'élévation de la créatinine et la déminéralisation osseuse, qui sont toutes les deux régressives à l'arrêt du traitement. Donc, encore une fois, ce médicament, il est pris en charge à 100% et l'accès peut être complètement gratuit si on oriente les patients vers un centre de dépistage anonyme et gratuit, le CEGID. Pour rappel, la PrEP ne protège que du VIH, mais pas des autres IST, et le préservatif reste toujours conseillé. Le suivi de la PrEP, donc initialement, il se fait à 1 mois, puis de façon trimestrielle. Systématiquement, donc, on doit vérifier l'observance, qui est le garant majeur de l'efficacité de la PrEP. On doit vérifier donc le risque également d'interaction, donc très peu d'interactions, principalement les médicaments néphrotoxiques, donc les anti-inflammatoires notamment, qui peuvent être des fois largement utilisés par des patients. Il n'y a pas d'interaction avec les contraceptifs, avec l'alcool, avec les substances psychoactives. Et en cas de doute, je vous ai mis un site sur lequel vous pouvez vérifier les interactions qu'on utilise avec tous les médicaments antirétroviraux. Le bilan biologique doit être fait donc initialement 1 mois après l'instauration de la PrEP, puis tous les 3 mois. Systématiquement, on doit avoir une sérologie et une créate et un bilan hépatique. Et après, on peut proposer un bilan d'IST selon les pratiques de notre patient. Une fois par an, une recherche de protéinurie sur échantillon. Le bilan IST, je laisserai Julia le développer plus longuement tout à l'heure, mais en 2 mots, donc une sérologie de l'hépatite B, une sérologie de la syphilis, une PCR chlamydia gonocoque aux sites qui sont exposés, donc auto-prélèvement vaginal chez la femme, premier jet d'urine chez l'homme, et plus ou moins anal pharyngé selon les pratiques. Sérologie de l'hépatite C, également selon certaines pratiques, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, notamment soyant des pratiques extrêmes, des rapports pendant les règles, la sérologie de l'hépatite A pour le risque de rapport avec péril orofécal. Cas particulier des adolescents, donc depuis 2018, le rapport d'experts autorisait donc la prescription de la PrEP chez les adolescents, mais les recommandations donc précisent qu'il est préférable de les voir plus fréquemment en raison du risque d'inobservance chez cette population. L'adolescent qui souhaite maintenir la confidentialité peut être accompagné d'un adulte majeur de son choix. Et en cas de volonté d'un suivi complètement anonymisé, on peut l'orienter vers le Cegid. Les cas d'inobservance, donc il existe différents algorithmes selon si on est en schéma continu ou discontinu pour dire qu'il y a un risque d'inefficacité de la PrEP. Donc vous aurez accès au diaporama par la suite, donc vous pourrez retrouver cet algorithme. En pratique, s'il y a un risque de mauvaise efficacité de la PrEP, il faut orienter le patient vers un traitement post-exposition, qui est un traitement qui comprend donc une trithérapie prise pendant 28 jours, dans les 48 heures après un rapport à risque d'infection. Donc ce traitement est accessible soit dans les centres spécialisés, soit dans les Cegid, soit aux urgences de l'hôpital si on est en dehors des horaires d'ouverture. Je vous ai remis ici les résultats de l'étude NRS Prévenir du professeur Molina, qui rapporte donc la PrEP en vraie vie. Donc 3 ans de suivi, 3000 participants, 98% d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, hein, ce qu'on voit actuellement. La moitié des participants donc, qui sont en PrEP discontinue. 361 infections par le VIH évitées. 6 participants qui ont été infectés par le VIH, tous avaient interrompu la PrEP. Donc il n'y a pas de cas d'inefficacité de la PrEP. Mais ce sont bien des gens qui ont arrêté, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Un seul cas de résistance chez quelqu'un qui avait repris la PrEP sans contrôler une sérologie VIH au préalable. Une tolérance très satisfaisante, aucun arrêt pour toxicité rénale et seulement 3 arrêts pour effet indésirable digestif. L'arrêt de la PrEP, donc, il est recommandé donc, en cas d'insuffisance rénale, en cas d'anomalie de la fonction rénale, de recontrôler de façon rapprochée le bilan et éventuellement d'adresser vers un spécialiste. Il est recommandé d'arrêter la PrEP s'il y a une baisse de la clairance inférieure à 60 ou si on a une dégradation rapide de la fonction rénale. Encore un petit rappel pour l'hépatite B. Si nous avons une infection par l'hépatite B chronique, un portage chronique, il est recommandé de se référer à un spécialiste avant d'arrêter la PrEP, car il y a un risque de réactivation de l'hépatite B. Dans tous les cas, en cas d'arrêt de la PrEP, que ce soit pour raison médicale ou pour le souhait du patient, il est indispensable de bien repréciser au patient de reprendre les mesures de prévention comme le préservatif s'il ne l'utilisait plus. Donc la PrEP, c'est un très bon outil pour protéger du VIH, mais c'est aussi un outil pour pouvoir parler de la qualité de la santé affective, de la santé affective et sexuelle, ce qui est un objectif de santé publique, comme vous l'a dit Patricia. C'est l'occasion de faire le dépistage et de traiter les IST, qui sont elles-mêmes responsables d'une plus grande infection par le VIH. C'est l'occasion de mettre à jour les vaccinations, le papillomavirus maintenant possible chez l'homme jusqu'à 27 ans, l'hépatite B, l'hépatite A, de discuter des pratiques, de proposer la réduction des risques, de discuter des consommations, notamment les consommations lors de rapports, le chemsex, le slam, de discuter des rapports de vulnérabilité et de violence, qui sont encore bien trop fréquentes. Encore une fois, comme vous disait Patricia, la prévention du VIH ne repose pas que sur la PrEP, mais sur d'autres outils. Le préservatif interne-externe, donc depuis peu, il faut le noter que c'est remboursé par la Sécurité sociale, 2 marques, la marque Eden et Sortez Couvert, c'est encore trop mal connu. Un outil indispensable, le dépistage du VIH et des IST, les traitements médicamenteux, le fait de traiter une personne séropositive et de le rendre indétectable permet d'éviter des transmissions. La personne ne risque pas de transmettre autour d'elle si elle est bien traitée et bien suivie. Et les traitements post-exposition, on en a parlé. Et bien sûr, le matériel à usage unique lors de consommation de drogue. Là, je vous parle de la PrEP sous forme de comprimé à prendre, donc en continu ou en discontinu. Mais il faut savoir que la PrEP est en plein essor et qu'il y a beaucoup de molécules et de combinaisons qui sont à l'essai, que ce soit sous forme donc, de PrEP orale, de traitement en long-acting, en injectable, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, sous forme d'implants, des anticorps neutralisants, et chez la femme, des outils en combinant des hormones contraceptives. Il y a énormément de recherches et d'actualités en ce moment sur la PrEP à venir. Voilà, donc en conclusion, la PrEP, très, très grande efficacité individuelle et collective, un pilier de la prévention diversifiée du VIH. L'implémentation de la PrEP est à diffuser. Heureusement, depuis juin, c'est possible maintenant pour tout le monde en ville, à diffuser. Un accès plus ouvert vers la PrEP et pourquoi pas vers un self-screening des personnes. La PrEP comme porte d'entrée pour promouvoir la santé sexuelle. Beaucoup de molécules en développement, c'est pas fini la PrEP. Et encore une fois, la PrEP, ça protège du VIH, mais pas du reste. Je vous ai mis, pour continuer, si vous voulez une formation plus complète, le lien vers PharmaPrEP, qui est un site qui a été mis à disposition des médecins de ville pour se former sur différentes thématiques, que vous retrouvez également sur les recommandations. Le contact pour les Marseillais de mon centre où j'exerce, des Cégides, du Corivi. Et les liens utiles, que ce soit pour l'aide à la prescription ou la documentation à remettre aux patients. Je vous remercie.
Eh bien voilà, on va continuer avant de répondre à vos éventuelles questions. Déjà, je remercie tous les élus du Conseil de l'Ordre de leur dynamisme et de leur investissement pour organiser toutes ces soirées. Et je remercie aussi Dominique Sperandeo qui a permis la coordination de cette soirée auprès des orateurs. Alors moi, je vais vous parler d'infections sexuellement transmissibles, mais étant gynécologue, je vais plutôt vous parler de tout ce qu'il y a à trait sur ce côté-là. Je voulais juste revenir sur une terminologie, parce qu'on n'arrête pas de parler d'infections sexuellement transmissibles. Et pourquoi on ne parle plus de maladies sexuellement transmissibles ? Eh bien, vous le verrez tout au long de mes diapos, parce que la majorité présente énormément de formes asymptomatiques. Donc ces infections sexuellement transmissibles, elles vont entraîner beaucoup de consultations pour des symptômes anormaux, mais surtout il y a un rôle primordial dans le dépistage pour faire des diagnostics précoces de ces infections. Pourquoi ? Parce que sinon ces infections vont avoir des conséquences qui sont diverses, et notamment chez la femme, le chlamydia et le trachomatisme va vraiment entraîner beaucoup de douleurs pelviennes chroniques, de grossesses extra-utérines, et une cause importante d'infertilité. En ce qui concerne la syphilis, bien sûr, il y a des atteintes qui peuvent être neurologiques, ophtamo, et donc qui sont aussi très importantes. Alors les IST qu'on voit surtout dans la pratique de ville et dont je vais vous parler ce soir, eh bien, ça va concerner le gonocoque, les chlamydiens et treponema pallidum, donc le vecteur de la syphilis. Je vous parlerai un petit peu d'HSV, du virus de l'herpès, et puis d'un parasite, le trichomonas vaginalis. Alors, ça a été déjà un petit peu évoqué avant par Hélène, mais le diagnostic d'une infection sexuellement transmissible va imposer la recherche d'autres IST, donc par le bilan. C'est bien que tu l'aies mis, Hélène, parce que je ne l'avais pas remis. C'était pourtant évident. Et pourquoi, par exemple, dans le diagnostic d'une infection à VIH, eh bien, dans 20% des cas, il y a déjà une autre IST. Donc, dans l'autre sens, nous, en ville, où on voit plutôt des infections par chlamydia et gonocoque, eh bien, on peut aussi être amené à faire des diagnostics de VIH. Il faut bien sûr dépister et traiter le ou les partenaires sexuels, ce qui n'est pas facile aujourd'hui de remonter dans l'histoire et de motiver les gens pour contacter leurs anciens partenaires. Et bien sûr, d'avoir des rapports sexuels protégés jusqu'à la guérison. Je ne vais pas parler d'HPV ce soir, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça fait partie de mon activité énormément. Bien que ça soit transmis sexuellement, on va plutôt le considérer comme un marqueur d'activité sexuelle. On ne dispose pas de dépistage pour le partenaire, il n'y a pas de consultation à proposer, il n'y a pas de traitement qui soit disponible. En fait, c'est une problématique liée, bon, bien sûr, au condylome acuminé et aux lésions précancéreuses, mais ce n'est pas tout à fait la même situation et donc je ne l'aborde pas. Et puis, dans le temps imparti, c'était impossible. Bon, bien sûr, l'HIV, je n'en reparle pas puisqu'Hélène en a parlé. Alors, en termes de symptômes, qu'est-ce que ça va pouvoir donner, ces infections sexuellement transmissibles ? Bien, pour que ça soit pour les hommes et pour les femmes, on peut retrouver des ulcérations génitales, donc principalement l'herpès par fréquence, et puis aussi bien sûr le chancre de la syphilis. Chez la femme, on va retrouver principalement des infections génitales basses avec des cervicites, mais il peut aussi y avoir des signes d'urétrite. Puis des infections génitales hautes qui ne vont pas être forcément secondaires à une infection génitale basse, hein, ça peut être d'emblée le diagnostic, donc soit salpingite, soit endométrite. Donc chez la femme, principalement, c'est chlamydia et gonocoque. Chez l'homme, les symptômes principaux, c'est l'urétrite qui peuvent se compliquer en orchite ou en prostatite. Et puis là aussi, on retrouve les mêmes germes, Neisseria gonorrhée, chlamydia trachomatis et mycoplasma genitalium. Je commence par les deux plus fréquents, ceux qu'on va rencontrer assez souvent en ville. Je voulais revenir sur quelque chose d'important, c'est l'opposition de sévérité des symptômes qui avaient classiquement été décrites et en fait qui n'est pas du tout ce qu'on voit en pratique clinique. Je pense qu'on n'avait pas les mêmes notions avant puisqu'on faisait moins de dépistage. Donc on pensait toujours que Neisseria gonorrhée était toujours très aiguë, toujours symptomatique. Ce n'est pas du tout le cas, il y a plein de formes asymptomatiques. Et que le chlamydia était plus subaigu. Eh bien non, en fait, tout se voit dans les deux infections. Il y a beaucoup de co-infections entre ces deux IST, même si le chlamydia est beaucoup plus fréquent, entre 7 et 10 fois plus fréquent. En propre, dans les études, bon, c'est un peu large l'écart, mais entre 2 et 24% de co-infections. Bien sûr, pour tout ce qui est Neisseria gonorrhée, on va retrouver beaucoup plus d'infections chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, puisque ça représente 62% des tests positifs. Alors, même si je vais essayer de ne pas trop faire catalogue, mais en même temps, il faut bien que je détaille un petit peu chaque infection. Donc, le gonocoque, voilà, j'insiste sur ça, c'est sur le côté asymptomatique. L'incubation en moyenne, elle est entre 2 et 7 jours. Les hommes se plaignent de quoi ? Ils ont surtout des urétrites aiguës. Donc, ils vont avoir des brûlures mixtionnelles, des écoulements, un écoulement urétral en général qui est purulent, jaune, verdâtre, et puis une inflammation au niveau du méa. Chez la femme, eh bien, 70% d'infections asymptomatiques. 30% seulement vont présenter des signes d'infection génitale basse d'abord et puis éventuellement d'infection génitale haute. Et dans les deux sexes, on peut retrouver des atteintes anorectales. Donc ça peut donner simplement un prurit anal et puis il peut aussi avoir un écoulement anal. Et là aussi, c'est une infection qui peut être assez souvent asymptomatique. On peut retrouver aussi des infections de l'oropharynx et au niveau oculaire, mais c'est plus rare. Alors le diagnostic du gonocoque, eh bien, c'est l'amplification des acides nucléiques, hein, c'est les PCR. Donc pour la femme, ça va être un prélèvement cervical ou vaginal, si la femme a un examen gynécologique. Et pour l'homme, c'est un prélèvement de l'écoulement urétral, s'il est présent, ou sinon c'est sur le premier jet d'urine. Donc en fait, on a quasiment abandonné les écouvillonnages au niveau de l'urètre. Il faut penser au prélèvement pharyngé et au niveau de l'anus, je vous l'ai dit juste avant, parce qu'il y a beaucoup de portages asymptomatiques. Le traitement, je pense que vous le connaissez, je l'ai remis pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est de la ceftriaxone à 500 mg en intramusculaire en dose unique. Si maintenant je vous parle un peu plus de chlamydia, puisque c'est quand même 7 à 10 fois plus, donc c'est une des IST les plus répandues. L'incidence a été multipliée par 3 entre 2012 et 2016. Et en fait, la problématique du chlamydia, c'est que ça touche surtout les femmes jeunes. 60 à 70% ne savent pas qu'elles sont infectées. Et vous voyez, la durée moyenne d'infection à chlamydia asymptomatique, c'est 1,4 ans. Donc en fait, les patientes ne se savent pas du tout porteuses. Bon, il y a aussi beaucoup de problématiques de réinfection, soit avec le même partenaire s'il n'a pas été traité, soit parce qu'il y a changement de partenaire. Et donc, plus les personnes sont jeunes et plus le taux de réinfection est important. Il y a quand même 20 à 25% des personnes qui vont guérir spontanément de l'infection, donc si elles ne le savent pas, bien sûr, et qu'elles ne sont pas soignées. La gravité de cette infection, la problématique, eh bien, c'est sa découverte tardive. Et notamment, je suis gynéco, donc forcément, je vous parle plus des femmes, mais c'est parce que le retentissement, il est plus sévère chez les femmes. Le chlamydia, il est responsable de 50% des salpingites et 70% des infertilités tubaires. Et donc 15% des femmes qui sont porteuses de chlamydia vont avoir une infection génitale haute, avec donc des conséquences. Il avait établi lors des recommandations de la DHS un modèle statistique qui donc avait calculé que pour 1000 infections à chlamydia trachomatis, il y avait à peu près 170 infections génitales hautes, 70 salpingites, 2 grossesses extra-utérines et 5 infertilités tubaires. Notre façon de voir les choses, c'est la prévalence de l'infection chez les moins de 30 ans. Donc vous voyez, 3,2% des femmes sont porteuses, et donc ça fait une femme sur 30. Moi souvent, je ramène ça à ma journée de consultation. Faites une journée de consultation de 30 patients, donc vous en avez eu une porteuse de chlamydia. Et un petit peu moins chez les hommes de porteurs asymptomatiques, 2,5. Bon, l'incubation, c'est très compliqué pour chlamydia, on ne sait pas. Du coup, plus je sors quelques jours, quelques mois, de toute façon, ce n'est pas très important. Mais ce qui, du coup, est important pour cette infection, eh bien, c'est le dépistage. L'idée, c'est la réduction de la prévalence de l'infection et donc des risques à long terme pour les femmes. J'ai commencé par les symptômes cliniques chez l'homme. Il y a un peu moins sur cette infection de porteurs asymptomatiques chez l'homme, c'est 10%. Et c'est le principal agent des urétrites non gonocoxiques. Bon, il peut y avoir des complications et le fameux syndrome de Fischinger-Leroy-Reiter, avec vraiment un sexe ratio 50 hommes pour une femme, qui associe donc une conjonctivite bilatérale. Une polyarthrite asymétrique qui va surtout toucher les grosses articulations des membres inférieurs, peut avoir une atteinte tendineuse et des signes aussi cutanéo muqueux. Il existe aussi chez l'homme des anorectites à souches qui sont non L, donc c'est quasiment exclusivement pour les hommes ayant des rapports avec des hommes, et c'est souvent aussi dans les co-infections avec le VIH. Dernière chose que je voulais citer, c'est, même si c'est moins fréquent, c'est la lymphogranulomatose vénérienne. Donc ça aussi, c'est en fait dû à les sérovars L1, L2, L3, donc de chlamydia trachomatis. C'est une infection qui est en réémergence depuis les années 2000, toujours chez les HSH. Et beaucoup de formes sont asymptomatiques. Dans 70% des cas, cette infection est associée au VIH. En termes cliniques, ça va donner une rectite, donc avec des ténèsmes, des douleurs rectales, constipation. Il peut y avoir aussi un écoulement anal. Et ce qui est caractéristique, c'est la lymphadénopathie. C'est classiquement appelé le bubon. Donc c'est une adénopathie inguinale qui est unilatérale et qui en fait va se fistuliser à la peau en plusieurs petits pertuis comme une pomme d'arrosoir. Le diagnostic de cette infection se fait soit sur le pus ganglionnaire ou sur l'écoulement rectal, donc c'est par la PCR chlamydia aussi, mais bon, pour savoir le génotypage, c'est dans des centres spécialisés. Bon, le traitement, je vous l'ai remis, c'est la doxy, 100 mg x 2 pendant 3 semaines. Alors, je m'attarde un peu plus sur l'infection à chlamydia chez les femmes. Donc, vous voyez, je n'ai pas de pointeur là, mais donc on part de l'infection à chlamydia. Donc, il peut avoir de la guérison, je vous ai dit 20-25%, il peut avoir des réinfections. L'infection à chlamydia peut passer en infection génitale haute, mais guérir aussi, sans avoir donné de symptômes. En salpingite et guérir aussi, mais ça peut aussi continuer d'évoluer et donc être pourvoyeur de grossesse extra-utérine et d'infertilité tubaire. Chez la femme, je vous disais, la majorité des infections sont asymptomatiques. En tout cas, quand on a des symptômes, ça va surtout être des symptômes de cervicite. Donc ce sont des leucorrhées qui sont pas toujours différentes des leucorrhées physiologiques. Bon, c'est souvent blanc, mais ça peut être un peu jaunâtre. Mycopurulent, c'est assez plus facile à diagnostiquer. On va avoir un col qui paraît un petit peu inflammatoire, qui saigne au contact. Difficile, ça, ce diagnostic, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes, quand on fait un frottis, qui saigne, donc c'est pas un signe spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des signes urinaires. Elles vont se plaindre de syndrome urétral, de cystalgie, de dyspareunie. Et les spottings, c'est important. Si vous avez une patiente qui va se mettre à saigner en dehors des règles, en milieu de cycle, alors qu'il n'y avait pas de raison particulière, que c'est inhabituel, eh bien, ça fait partie des examens qu'il faut faire à ce moment-là. Il faut leur faire une PCR chlamydia. Et puis, si l'infection donc, génitale basse n'est pas diagnostiquée et puis continue son évolution, c'est une infection qui est ascendante et passe en infection génitale haute par le canal cervical et qui va atteindre l'endomètre, les trompes. Là aussi, les signes ne sont pas spécifiques puisque ça donne des douleurs pelviennes, mais qui sont difficiles de différencier d'autres douleurs. Il a une possibilité, je l'ai dit, de guérison, mais bien sûr aussi d'aggravation vers les lésions tubaires. Donc, et tout le problème du chlamydia, je vous le redis là, c'est le retentissement au long terme qui va donner en fait une inflammation pelvienne avec des douleurs chroniques chez des femmes qui présentent donc ces douleurs et difficiles à étiqueter puisqu'on ne s'est pas rendu compte de cette infection à chlamydia. Bon, les salpingites qui peuvent être aiguës ou subaiguës, donc ça c'est un diagnostic qu'on peut faire avec des dilatations tubaires. Les grossesses extra-utérines, donc 5% des grossesses extra-utérines sont liées au chlamydia. Et puis l'infertilité tubaire, on pense que c'est un tiers, donc c'est quand même plus important. Bon, le syndrome de Fitz-Hugh et Curtis, moi j'en ai vu une fois, c'est une périhépatite, donc ça veut dire qu'il y a une inflammation qui va atteindre jusqu'au foie, et donc c'est des patients qui ont des douleurs dans l'hypochondre droit, en plus des douleurs souvent pelviennes. Voilà, c'était une photo pour vous montrer, vous voyez, c'est pas particulièrement caractéristique, le col rouge, des leucorrhées blanches, mais on peut voir ça dans plein de consultations sans qu'il y ait de chlamydia. Alors les tests de dépistage, on peut donc prélever les 4 sites, génital pour la femme, urinaire pour l'homme ou l'écoulement urétral, anorectal et pharyngé. Deux choses sur lesquelles je voulais revenir, il ne faut pas faire de PCR sur les urines chez les femmes, ça n'a pas d'intérêt, c'est beaucoup moins sensible. Chez les femmes, il faut faire le prélèvement donc vaginal ou cervico-vaginal, parce que si la patiente est en consultation avec un examen gynécologique, ben on en profite pour le faire. Si par contre, là, c'est du dépistage et que la patiente n'est pas examinée sur le plan gynéco, l'auto-prélèvement a une sensibilité qui est quasiment la même que celle quand c'est réalisé par un clinicien et très souvent une meilleure acceptabilité. Donc il faut vraiment l'auto-prélèvement vaginal le proposer, le diffuser pour faciliter l'accès au dépistage. Donc les tests d'amplification des acides nucléiques, c'est bien sûr la méthode de référence avec une sensibilité de 92-93%. La quasi-totalité des laboratoires utilisent des tests qui font les deux, même si le Neisseria gonorrhée n'est pas en fait à la nomenclature. Il y a juste un problème en fait en ville de remboursement si le même jour on veut prélever plusieurs sites. On ne peut pas, donc ça c'est un centre de dépistage, donc il faudrait changer de jour pour faire les différents sites. Alors, je préfère anticiper la question sur la sérologie chlamydiée. Donc, elle n'a aucun intérêt en dépistage. Il faut arrêter. On trouve plein de patientes, surtout avec une sérologie chlamydiée, qui viennent paniquer. Ce n'est pas du tout le signe d'une infection en cours. Ça peut nous servir dans le diagnostic d'infection génitale haute. Donc, dans des tableaux inflammatoires, infectieux, de douleur, c'est différent. Et éventuellement, enfin, pas éventuellement, en PMA, ils l'utilisent parce que ça leur permet d'évaluer. On sait qu'ils ont une séroprévalence plus élevée dans les populations de femmes infertiles et ça leur donne une idée d'origine de l'infertilité aussi. Mais pas du tout en dépistage et au moment d'un diagnostic d'infection. Alors, c'est là que je vais vous reprendre toutes les recommandations qu'a fait la HAS en 2018. Donc, les recommandations qui sont proposées, c'est de dépister de façon opportuniste et systématique les femmes sexuellement actives de 25 à 25 ans, donc y compris les femmes enceintes. Et puis, de faire également un dépistage opportuniste ciblé des hommes qui ont des facteurs de risque, quel que soit leur âge, des femmes de plus de 25 ans, quel que soit leur âge, et des femmes demandant des IVG. Donc vous avez compris que si c'est plus orienté sur la femme, c'est parce que les conséquences sont principalement sur la femme et qu'il y a beaucoup plus d'asymptomatiques. C'est pour ça que le dépistage vraiment est orienté sur les femmes. Mais il y a aussi, je vais vous parler après, des facteurs de risque. Bon, pour les IVG, moi, ça me fait toujours bizarre de voir ça, c'est un peu stigmatisant. Vous avez des patientes qui font une demande d'IVG et qui sont en couple et c'est plus une ambivalence par rapport à leur désir d'enfant qu'un problème de rapport non protégé. Mais voilà, c'est une proposition, en tout cas, on peut leur en parler. Je vous cite justement les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque qu'ils doivent faire aux hommes et aux femmes de plus de 25 ans, c'est au moins 2 partenaires dans l'année, un changement récent de partenaire, une personne qui a à ce moment-là un autre diagnostic d'IST ou dont le partenaire a eu un diagnostic d'IST, s'il y a des antécédents d'IST, les HSH, et les personnes en situation de prostitution ou ayant subi une agression sexuelle. Alors, si le test est négatif, donc cette population, on va le refaire annuellement s'il y a de nouveau des rapports non protégés avec de nouveaux partenaires. En revanche, si le test est positif, on va le refaire 3 à 6 mois après le traitement. Et on propose aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à haut risque d'infection, je ne vous ai pas mis les critères, de les refaire tous les 3 mois. Je vous rappelle rapidement le traitement qui est principalement l'azithromycine en prise unique ou la doxy sur traitement de 7 jours. Ça, c'est pour les infections qui ne sont pas compliquées. Le contrôle après traitement, il n'est pas systématique. Alors, on le propose aux femmes enceintes parce que c'est important de vérifier l'élimination du chlamydia pour la suite de la grossesse. Et puis aux hommes qui présentent des infections anorectales asymptomatiques. En tout cas, si on doit faire un contrôle après traitement, il ne faut jamais le faire avant 3 à 5 semaines. Parce que sinon, on va encore dépister les acides nucléiques des bactéries, mais qui ça ne voudra pas dire que l'infection est active. Donc c'est important de laisser ce délai au moins 3 à 5 semaines. Et bien sûr, toujours pareil, conseiller des rapports protégés jusqu'à 7 jours après la fin du traitement. En ce qui concerne la femme enceinte, on ne peut pas utiliser la doxy, donc c'est vraiment Zithromax ou érythromycine. Alors le partenaire, il y a justement un travail qui est en cours sur l'information du partenaire. C'est qu'il faut essayer vraiment de pouvoir transmettre le résultat au partenaire tout en respectant les impératifs juridiques et éthiques. Ça, en gros, ça veut dire qu'on va passer par le ou la patiente, j'allais dire la patiente par habitude, mais le ou la, et on va remonter sur 12 mois. Donc on va faire leur demander de contacter les partenaires qu'ils ont eu avec des rapports non protégés sur les 12 derniers mois. En fait, on leur propose soit de faire une consultation à la recherche de symptômes ou de faire directement les tests de dépistage ou de traiter aussi systématiquement s'ils ne veulent pas faire de consultation ou de tests. Je vous parle quelques minutes de Trichomonas vaginalis. Donc, qui n'est pas embêtant comme le chlamydia parce qu'il n'y a pas de retentissement au long cours. C'est plus les problèmes cliniques que ça occasionne. Donc, c'est un parasite, le Trichomonas. En fait, chez les femmes, elles vont avoir une vulvovaginite aiguë. Elles vont avoir des leucorrhées qui vont être un peu jaune verdâtre, mousseuses. Il y a des petites bulles d'air à l'intérieur, souvent malodorantes. Et la différence, par exemple, par rapport avec une vaginose bactérienne, c'est qu'elles vont avoir le vagin la vaginose peut avoir les mêmes pertes. Le vagin va être assez rouge, on appelle ça framboisé. Bon, l'incubation, c'est 7 à 10 jours. Et souvent, elles associent un prurite, des brûlures et des saignements pendant les rapports. Donc, c'est assez symptomatique. Ça, c'est des patientes qui appellent et en disant « j'ai un problème, ça n'a pas du tout au niveau de mes pertes, j'ai mal, etc. » Il y a quand même 20% de formes asymptomatiques aussi de trichomonas chez la femme. En revanche, chez l'homme, la quasi-totalité des infections sont asymptomatiques, 90%. Il y en a seulement 10% qui présentent une urétrite. La façon la plus simple pour faire le diagnostic, c'est l'examen direct. Donc chez la femme sur le prélèvement vaginal ou chez l'homme sur le prélèvement d'écoulement, quand il y en a un. On les traite par Secnol, 2 grammes, quand ce n'est pas en rupture. Assez souvent, on va proposer, c'est pas souvent, pour cette infection-là, on va proposer, notamment quand moi j'ai une infection chez la femme, c'est le traitement systématique du partenaire. Parce que vous voyez, les formes sont asymptomatiques mais pourtant c'est très contagieux et donc ils sont assez souvent infectés. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble des leucorrhées pour ceux qui font des examens gynéco. Donc là, le col et le vagin sont très rouges avec des leucorrhées assez liquides, un petit peu verdâtres et mousseuses. Ça, c'est une autre forme. Ça, c'est quand des fois, on les voit en colposcopie. Donc, ça peut faire des espèces de bulles comme ça et qui prennent différemment les colorants. Et on parle aussi de colpite léopard. Ça fait des petits amas lymphoïdes inflammatoires rouges qu'on peut voir directement sur la photo de droite, des zones rouges. Et après, en colposcopie, c'est différent. Allez, je passe à l'herpès. Je crois que c'est le dernier. Non, j'ai la syphilis après. Désolée, il y en a beaucoup, hein. Alors, l'herpès génital, les infos que je voulais transmettre, c'est que déjà la séroprévalence de l'HSV2, donc qui est normalement l'agent de l'herpès génital, c'est 18% chez les femmes et 14% chez les hommes. Donc, c'est une femme sur 5 qui va être positive à l'HSV2. Mais on sait aussi qu'il y a des infections d'herpès génital à HSV1 chez la femme. C'est 20% d'herpès génital qui sont en fait liés à HSV1. Donc, ce n'est pas toujours l'HSV1 pour l'herpès labial et l'HSV2 pour l'herpès génital. Et une notion extrêmement importante, parce que ça, c'est la question que posent tout le temps les patients, c'est la contamination. Donc, c'est sûr qu'elle peut se faire s'il y a des lésions, puisque les vésicules sont très contagieuses, mais ça peut aussi se faire lors d'une excrétion virale asymptomatique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette excrétion asymptomatique? En fait, il va y avoir présence d'HSV, de virus, sur les muqueuses génitales, en l'absence de toute manifestation clinique. Et c'est le mode de contamination le plus fréquent, parce que la majorité des personnes ne savent pas à quel moment ils ont été infectés. Et voire même la personne qui a des excrétions, parfois ne se sait même pas porteuse de l'herpès, puisque l'infection peut avoir été totalement asymptomatique. Ça dure quelques heures, et donc c'est le mode majeur de transmission. Alors l'herpès, la primo-infection, même si je vous disais, c'est quelque chose qu'on ne savait pas bien avant ça, mais qu'elle peut passer inaperçue, eh bien sinon, quand c'est cliniquement important, elles vont avoir des lésions qui sont des petites vésicules, qui vont plus ou moins confluer. Elles peuvent avoir une altération de l'état général, de la fièvre, des maux de tête, une asthénie, et puis ça fait assez mal. Alors c'est vrai que je me rends compte en lisant mon diaporama que je parle surtout de la femme, ça fait beaucoup de douleurs vulvaires. Souvent elles ont une adénopathie inguinale associée. En ce qui concerne donc les récurrences, il y a à peu près 20 à 50% de femmes qui vont faire des récurrences de leur poussée d'herpès. Le plus souvent, c'est assez rapidement quand même dans la suite de la primo-infection, dans les 18 mois. Moi, j'ai des patients des fois qui récidivent tous les mois pendant quelques mois. Et puis après, ça va mieux. Et en général, elles vous décrivent toujours la même chose, des picotements, des démangeaisons, des brûlures. Et souvent, l'éruption, quand elle se produit après, c'est dans la même zone que la primo-infection. Quelques photos. Donc ça, on voit, il y a les petites érosions. Souvent, les vésicules, elles ne se voient plus, puisque la muqueuse génitale et puis le frottement fait que les vésicules sont fragiles, elles explosent et donc il ne reste plus que l'érosion. Ça fait donc des petites érosions comme ça. Voilà, sur peau noire, c'est des fois un peu plus difficile à voir aussi. Et puis, il peut y avoir des lésions à des stades différents. Donc là, c'était au stade un peu croûteux. Et elle avait consulté un peu tardivement cette patiente et avec sur plusieurs sites, puisque c'est la même patiente. Alors, pour en faire le diagnostic de l'herpès, franchement, c'est clinique. Quand on en a vu quelques-uns, on ne peut plus se tromper. La technique de référence pour le diagnostic, c'est la culture. Mais on fait quasiment... Enfin, quand on veut un diagnostic biologique, la PCR est beaucoup plus simple sur le liquide des vésicules. Par contre, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je sais. En tout cas, peu importe, ça n'est plus remboursé, ça a été retiré du remboursement. Ça allait uniquement pour les femmes enceintes, s'il y a une primo-infection ou s'il y a des lésions près de l'accouchement avec un doute, et chez le sujet immunodéprimé. Donc, on ne peut plus faire sans que les patientes aient à régler de PCR à herpès. La sérologie, elle sert à quasiment à rien. Il y en a qui s'en servent pour documenter une primo-infection, mais il y a même des faux négatifs. Donc, du coup, ça perturbe. Et c'est là aussi le remboursement, c'est uniquement pour les femmes enceintes ou avant la mise en place d'un traitement immunosuppresseur. Le traitement, c'est le valacyclovir, donc avec des durées différentes en fonction si c'est primo-infection ou récurrence. Et on peut même faire une prévention des récidives quand la patiente a énormément de récidives par an. Si elle a 6 poussées par an, eh bien on va lui donner un traitement préventif pendant plusieurs mois. Allez, je finis avec la syphilis. Donc la syphilis, l'incidence est toujours en augmentation, en particulier pour les HSH. La transmission se fait par les muqueuses, hein, que ce soit génitale, anale, buccale. Il y a aussi une transmission transplacentaire. La gravité, il y en a deux. La syphilis congénitale, quand c'est transmis de la mère à l'enfant. Et puis sur certaines localisations, donc le système nerveux central et l'œil. On va diviser l'infection syphilis précoce, donc qui est de moins d'un an, là où il y a beaucoup de tréponèmes et donc avec beaucoup de contagion. Et ça comprend la syphilis primaire et la syphilis secondaire. L'atteinte neurologique, à ce moment-là, elle, profonde, elle est plutôt rare. Donc, on ne fait pas de ponction lombaire systématique. Et puis, le traitement va varier en fonction de si c'est une syphilis primaire ou secondaire. Les syphilis tardives, c'est au-delà d'un an. C'est beaucoup plus rare. Je ne le développerai pas beaucoup. Il faut savoir qu'il existe des formes qui ne sont pas symptomatiques de la syphilis. Alors, le chancre, on l'a tous appris, le chancre syphilitique. Donc, en moyenne, c'est 3 semaines après le comptage. Alors, le chancre, il est constant, mais on ne le diagnostique pas constamment parce qu'il peut se situer sur des muqueuses profondes, par exemple au niveau du col, au niveau de la muqueuse anale. C'est une ulcération unique qui n'est pas douloureuse, avec un fond qui est induré et qu'on caractérise de propre. Il y a en général une ou plusieurs adénopathies associées. Souvent, elles sont inguinales, mais en fait, ces adénopathies, par rapport à la lymphogranulomatose, elles ne sont pas inflammatoires, elles ne se fistulisent pas. Et que ça soit le chancre ou les adénopathies qui sont associées, ça va disparaître en quelques semaines. Ça, c'était pour la syphilis primaire. Donc, la syphilis secondaire, ça va témoigner de la dissémination hématogène du tréponème. Et seulement un tiers des patients infectés vont développer une syphilis secondaire et dans l'année qui suit le chancre. Ces patients vont faire des manifestations cutanées et muqueuses, donc ils sont en mode d'entrée dans le diagnostic quand le chancre n'a pas été diagnostiqué. Donc, en premier, ça va faire un aspect de roséole. Donc, c'est des macules qui vont apparaître au niveau du tronc, qui vont rester 1 ou 2 mois. Je vous montre 2 photos après. Et ça mime tout à fait, par exemple, un pityriasis rosé de Gibert. Un petit peu plus tard, 3e, 4e mois, c'est plutôt des syphilides. Là, on est sur des palpules qui sont plus sombres, squameuses, qui touchent volontiers la plante des mains et des pieds, les mains et les pieds, et ça guérit en quelques mois. Et ça va volontiers aussi ressembler à du psoriasis. Donc, c'est un des diagnostics différentiels. Et puis, encore plus tard, il peut y avoir d'autres plaques plus en relief, plus érosives. Vous voyez, donc c'est des petites macules, c'est plat, c'est rosé, c'est un peu disséminé, principalement sur le tronc. Et ça, donc, c'est la partie des syphilides, donc sur les mains et les pieds. C'est un petit peu plus sombre, vous voyez, c'est squameux légèrement, il y a un tout petit peu de blanc. Et c'est assez caractéristique aussi quand c'est sur les plis, les plis palmaires, ou ça, à cheval dessus, c'est caractéristique. Voilà, syphilis tertiaire, j'ai pas d'expérience, mais c'est rarissime. Et ça donne vraiment des infections plus profondes et compliquées. La neurosyphilis, donc l'atteinte du système nerveux central, elle peut être présente à tous les stades, mais beaucoup moins fréquemment au début. Et donc, elle va donner des signes soit de méningite, soit d'atteinte au niveau des paires crâniennes ou ophtamo. Alors, le diagnostic, c'est la sérologie. Donc, ça va être un test tréponémique automatisé qualitatif. Donc, ça va témoigner de l'infection par le tréponème, mais pas de l'activité. C'est très spécifique, ça n'a pas d'intérêt, par contre, pour le suivi de l'infection, pour savoir si le traitement est efficace. Si ce premier test, le TT, est positif, à ce moment-là, on fait un test non tréponémique, quantitatif, qui, lui, va avoir un intérêt sur le suivi de l'activité. En moyenne, la sérologie devient positive 10 jours après le chancre. Je vous marquais juste l'interprétation. Donc le TPHA, c'est un TT, mais qui n'est plus utilisé depuis 2015, qui est remplacé par un test automatisé qualitatif. Donc quand les deux sont positifs, c'est que c'est une syphilis non guérie. Quand seulement le TT est positif et le VDRL négatif, c'est une syphilis qui guérit ou récente. L'inverse, ce sont des faux positifs et qui peuvent se voir dans les SAPL, dans les maladies auto-immunes. Et bien sûr, négatif, soit il n'y a pas de syphilis, soit c'est que c'est trop tôt, et donc il ne faut pas hésiter, notamment lors d'un diagnostic d'ulcération de chancre, il faut refaire la sérologie 2 semaines après. C'est ma dernière diapo. Donc ce que je voulais dire, Patricia Hennel en a parlé au début, c'est qu'il y a quand même une baisse de recours au dépistage en 2020, que ce soit pour le VIH ou les infections sexuellement transmissibles bactériennes. Et donc cette situation entraîne quand même un retard au diagnostic et une circulation plus importante de ces IST. Et donc, bien sûr, c'est le but de ce soir, c'est de vous parler de dépistage. Et donc, il faut absolument en parler aux patients, pouvoir parler de sexualité, pouvoir parler de prise de risque et de leur proposer très facilement le dépistage et favoriser, notamment chez la femme, l'auto-prélèvement vaginal pour éviter l'examen gynéco qui est assez souvent un frein chez les femmes jeunes. Voilà, je vous remercie. On va répondre aux questions.
Eh bien, un grand merci à toutes les trois pour cette belle présentation. Avec beaucoup de dynamisme, vous avez même réussi à presque casser le décor. Donc, le temps de régler la caméra et on va remettre le décor en place. C'est pas grave. C'est un sujet extrêmement important qui nous tient à cœur, d'autant plus que Patricia l'a dit tout à l'heure, il y a une exposition que je vous invite également à aller voir au MUCEM, qui est extrêmement bien faite et bien documentée. Vous avez été nombreux à réagir ce soir et je vous en remercie. On commence par une petite précision et une remarque sur les centres de Cégide qui ont été présentés ici ce soir. Bien évidemment, ce ne sont que ceux de Marseille et environ qui ont été présentés, mais on a une personne qui nous signale qu'ils sont présents bien sûr sur l'ensemble du territoire régional et national. Donc vous pouvez tout à fait retrouver un Cégide proche de chez vous. La question qui vient en premier, c'est pourquoi la prise en discontinu n'est-elle pas autorisée chez les femmes ayant des rapports discontinus ? Puisque je crois que c'est Hélène qui en a parlé tout à l'heure, il n'y avait que les garçons qui pouvaient prendre la PrEP en discontinu. Et la personne précise qu'elle pense au bal et fêtes du week-end avec les partenaires inconnus.
Oui, donc tout à fait, la sexualité peut être la même, qu'on soit un homme ou une femme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, en pratique, il n'y a pas eu d'essais cliniques qui ont prouvé l'efficacité de la PrEP en discontinu chez la femme. Et les essais qui ont été faits chez la femme montreraient qu'il n'y a pas la même diffusion des antirétroviraux dans les muqueuses vaginales, ce qui fait qu'il n'y a pas les mêmes protections et a priori une moins bonne protection chez la femme. C'est aussi pour ça que je vous disais, en cas d'inobservance, les algorithmes de prise en charge ne sont pas les mêmes chez la femme. Il faut une prise au moins 6 jours sur 7 pour être sûr d'être bien protégée, alors que chez l'homme, 4 jours sur 7 peut suffire. Donc ce n'est pas les mêmes diffusions dans les muqueuses.
Merci pour cette réponse. On a des questions. Alors, on a eu un topo technique, donc on a des questions techniques et c'est bien normal. on vous en remercie. Alors, PrEP Truvada en continu si l'on prescrit chez une femme en situation vulnérable qui commence une grossesse sous PrEP. Quel est le risque pour le fœtus? Est-ce qu'on peut la prescrire au premier trimestre ou plus tard dans la grossesse, ou est-ce que c'est complètement contre-indiqué?
Donc oui, comme je le disais dans les recommandations HS 2021, c'était précisé, la PrEP est possible chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes également. Nous, on a beaucoup de patientes séropositives pour lesquelles le Truvada est prescrit, donc sous forme de trithérapie, donc avec un autre agent. Mais donc voilà, la PrEP peut être utilisée, voire même doit être utilisée pour des personnes qui pourraient donc avoir des facteurs d'exposition pendant leur grossesse et qui exposeraient du coup le fœtus à un risque de VIH. Mais pas de risque au niveau fœtotoxicité du coup de la PrEP.
Un complément ? Non, très bien. allez, encore une question presque de posologie et de modification de traitement ou non. Si un patient a une IST à CT traitée par azithromycine à dose unique, mais persistance des symptômes d'urétrite, la question est, doit-on modifier le traitement sans nouveau test par exemple?
Donc ça veut dire que cette personne dont le test a déjà été positif. Bon, c'est vrai que moi je les recontrôle comme ça. Si les patients sont symptomatiques, il y a des échecs des différents traitements. À ce moment-là, il faut faire plutôt un traitement long par doxycycline. Et en général, je recontrôle, mais pas avant 3 à 5 semaines. Oui.
Alors là, il y a à la fois une question technique, mais également presque éthique. Pour les EST, comment arrêter les chaînes de contamination? C'est une vraie question, on est du ressort de l'intime. Le médecin devrait-il donner à la patiente une ordonnance, je dis entre guillemets, hein, c'est bien comme ça que ça a été posé, anonymisée, destinée aux partenaires pour éventuellement être testé ou pour avoir un traitement?
Alors, moi, c'est vrai que je ne fais pas d'ordonnance d'un patient que je ne connais pas. Je ne connais pas ses allergies, ses antécédents, donc je ne fais pas de traitement. Ça ne me pose aucun problème, à partir du moment où j'ai un nom, de faire les ordonnances pour des tests. Ça, c'est sans souci. Et au contraire, il faut le favoriser. Mais après, chacun sa pratique. Hein. Moi, je propose aux... Donc, comme je vois des femmes, je leur dis, bah, alors, votre homme, soit il vient me voir, soit je lui fais une téléconsulte, soit il voit son médecin traitant. Et le tout, c'est d'arriver à, effectivement à obtenir. Mais c'est effectivement le plus dur aujourd'hui, c'est d'obtenir le dépistage des partenaires.
Je voulais juste compléter en disant qu'effectivement, c'est difficile de faire venir un partenaire et c'est aussi difficile à la personne concernée d'en parler à son ou ses partenaires. Et notamment, il y a tout un travail autour de ce qu'on appelle la notification aux partenaires pour aider les personnes à en parler. Alors, c'est freiné en France par le dispositif de la CNIL. Bon, qui, avec la crise Covid, a pris un peu du plomb dans l'aile, on va dire. Mais effectivement, il y a tout à repenser aussi pour faciliter la parole aux partenaires et le faire venir également pour prendre le traitement en même temps, parce que l'idée, c'est qu'ils soient traités tous les deux en même temps.
Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des... Il est, dans certains endroits, il est mis en place, en fait, d'envoyer des SMS anonymes, en fait, en disant « Vous avez été en contact avec un ou une partenaire infecté par le chlamydia, le gonocoque, etc. » Et donc, ça, c'est une des propositions qui est faite pour essayer de pouvoir remonter la chaîne de contamination. Surtout quand c'est un an, ça peut faire pas mal de partenaires. Et en général, la patiente, elle n'a pas très envie de rappeler des partenaires avec qui elle n'est plus en couple.
Alors, c'est développé dans les pays anglo-saxons, qui ont aussi un temps d'avance dans beaucoup d'aspects de santé publique. Voilà. Après, il y a des essais en France, il y a des outils qui se développent, mais bon, il faut voir dans quelles conditions on est sûr de pouvoir respecter le secret professionnel, voilà, et que ce soit bien accepté.
Grand merci pour cette réponse, parce que c'était vraiment une question piège. Pas de traitement, pas d'ordonnance sans avoir vu le patient, bien évidemment. Et merci d'avoir répondu et conforté l'ensemble des personnes qui nous écoutent ce soir à respecter les écrits médicaux, parce qu'une ordonnance, ce n'est pas un simple papier, ce n'est pas un simple morceau qu'on donne avec une écriture dessus. Ça engage votre responsabilité, et à la fois civile, pénale et ordinale. On a fait un jeudi de l'ordre sur ce sujet, où on a parfois des médecins qui sont très embêtés parce qu'ils sont au cœur d'un conflit familial ou professionnels. Ils écrivent parfois des choses qui peuvent les mettre en cause par ailleurs. Une dernière question peut-être sur l'auto-prélèvement pour les recherches de CT. Se fait-elle avec prescription obligatoirement ?
Alors, à ma connaissance, oui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut forcément avoir une ordonnance, en tout cas pour que ça soit pris en charge. Si la patiente va sans ordonnance, ça va être à sa charge. Après, elle peut se rendre justement au centre de dépistage où là, elle n'a pas besoin d'ordonnance et où elle va pouvoir avoir les différents prélèvements pour les IST. Il ou elle.
Parfait. Bah, écoutez, on vous remercie énormément pour cette présentation. Jacques en a parlé tout à l'heure concernant le prochain jeudi de l'ordre qui sera dès la semaine prochaine. On a un peu bousculé l'agenda, mais c'est pour le bien, rassurez-vous. On va parler d'un tout autre sujet qui concerne la souffrance des étudiants en santé et des internes. Pour la présentation de ce soir, vous la retrouverez sur le site du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en tapant sur votre moteur de recherche préféré CDOM 13, et vous avez les jeudis de l'ordre en visio. Le jeudi prochain, donc, c'est la souffrance des étudiants en santé et des internes, avec le président de l'AMNEF, le président de l'INPH, le président de l'INSI et d'autres structures qui encadrent les internes. Et il y aura derrière une table ronde avec des invités de marque, puisque François Crémieux sera présent, ainsi que le professeur Jean-Luc Jouve. François Crémieux étant le directeur général de la PHM, et Jean-Luc Jouve, le représentant de la CME. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, à très bientôt au Conseil de l'Ordre.